l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités éminentes d'AVSF, agronome et vétérinaire sans frontières, puisqu'il s'agit de Philippe Lost, qui est le délégué régional de cette association, que vous avez déjà dû entendre d'ailleurs sur les ondes de FM+, parce que cette association fait partie de la Maison des Tiers-Mondes depuis longtemps. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir René Bilas, qui lui est un agronome qui vient de sortir un ouvrage qui fera couler beaucoup d'encre et qui le fait déjà couler d'ailleurs, puisqu'il s'agit de faire du Sahel un pays de cocagne, le défi agroécologique. Donc un livre qui va nous poser vraiment beaucoup de questions et sur lequel nous allons nous étendre. Alors René, vous rentrez d'ailleurs du Burkina Faso, vous faites de nombreuses missions.
Oui, exact.
Et donc tous les deux, vous travaillez dans le cadre de l'agronomie depuis longtemps, avec des missions au Burkina, mais pas seulement, au Sénégal également.
Oui, nous sommes des anciens du CIRAD, mais maintenant nous sommes engagés très fortement aux côtés d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui est une ONG française d'importance moyenne, avec un budget qui est de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros, et environ 300 personnes réparties dans une vingtaine de pays dans le monde. Nous gérons ainsi 75 à 80 projets dans des pays d'Afrique, d'Amérique latine, de la zone des Caraïbes et d'Asie.
Alors à Montpellier, vous avez des spécificités ou pas?
Disons que la délégation régionale montpelliéraine, évidemment, est au cœur d'un pôle agronomique, donc très proche d'Agropolis International et d'organismes tels que le CIRAD, l'IRD, l'INRA, donc très bien placé à ce titre. Mais cela dit, nous ne participons pas directement au projet. Nous sommes plutôt dans des démarches de communication, d'animation des campagnes, de recherche également d'adhérents et éventuellement de partenaires.
Et de conseils aussi.
Et de conseils, évidemment, puisque effectivement, de ce point de vue-là, Montpellier est vraiment riche en ressources.
Il nous arrive d'organiser des rencontres autour de problématiques des pays dans lesquels on travaille. Et il y a quelque temps, ça fait quelques années, on avait organisé une conférence débat sur la culture paysanne à Haïti, avec des gens qui connaissaient bien le pays et qui en ont d'ailleurs fait un CD-ROM là-dessus, et qui illustrait bien à quel point le fond de la culture haïtienne est d'abord paysanne, et que c'est cette référence qui compte un peu dans les rapports sociaux.
Oui, en effet. Mais Haïti, en ce moment, a été ravagé à nouveau par une catastrophe, et donc tout le travail fait est souvent à refaire.
Oui, non, enfin moi je ne suis pas de près ce qui se passe à Haïti parce que je suis trop pris par le reste, si vous voulez, mais il n'y a pas longtemps, on avait une rencontre organisée ici à Montpellier, justement toujours dans ce même cadre, un peu MTM, un peu etc., sur les outils de planification rurale, et il y avait un Haïtien qui était là avec quelqu'un d'AgriSud, c'était de très bon niveau, hein, c'était du très bon travail, et qui, on sentait que même les conséquences dramatiques du tremblement de terre, si vous voulez, n'avaient pas cassé le travail. Et il avait existé avant, il se poursuit, etc. Donc il y a quand même, même si le pays est en ruine, il y a une grande partie de ses activités qui continue. L'état gogo continue, etc.
En Haïti, on travaille vraiment dans une optique de développement durable. On est présent depuis longtemps, on y a une équipe relativement solide. Et nous sommes non seulement sur les aspects techniques liés à l'agroécologie, la bonne conduite des cultures et des productions, mais également sur le renforcement des organisations paysannes, sur le commerce équitable, faire en sorte que leur production de café biologique, par exemple, soit bien valorisée, sur le renforcement des acteurs de la filière, etc. Vous voyez, on n'est pas cantonné aux stricts aspects techniques et on essaie de faire en sorte que les organisations paysannes, notamment, soient vraiment aient leur destin en main, quoi,
voilà, c'est ça, exactement,
au plan économique et même, je dirais, dans certains cas, au plan politique.
Alors, quels sont vos projets en ce moment ?
Mais disons que AVSF a toujours une dynamique forte dans les pays dans lesquels nous sommes engagés, comme je le disais, qui sont des différents pays d'Amérique latine, la Bolivie, l'Équateur, etc., des pays d'Afrique subsaharienne et des pays d'Asie du Sud-Est. Mais actuellement, la stratégie serait d'aller vers les pays les moins avancés, vers les pays les plus pauvres, vers les agriculteurs les plus démunis. Et ceci nous amène très logiquement à renforcer notre dispositif en Afrique subsaharienne, dont on connaît les grandes difficultés au plan de la production agricole, mais également de l'alimentation des villes, de la sécurité alimentaire, et d'autre part, dans les pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. Voilà donc les deux axes sur lesquels actuellement on met l'accent, tout en restant présent, évidemment, dans des pays où nous sommes historiquement depuis assez longtemps. Alors il est clair que quand on parle des plus pauvres, Haïti en fait partie, certains pays d'Afrique où nous développons nos actions actuellement.
Et dans ce cadre de nous renforcer nos activités, par exemple dans les pays sahéliens, la composante agroécologie prend de plus en plus d'importance, puisque le soutien, enfin, l'agriculture paysanne ne peut se développer, ce dont on va parler dans un instant, que dans un contexte agroécologique. Donc ça nous amène à donner à l'agroécologie une dimension transversale à beaucoup des projets qu'on développe.
Oui, évidemment que le problème de la production de nourriture devient de plus en plus aigu, puisqu'en 2050, le monde aura besoin de 70% de nourriture en plus.
Oui, c'est tout à fait impressionnant, d'autant plus que l'on sait que dans presque le milliard d'humains qui se nourrissent mal, la majorité sont des paysans. Donc on voudrait faire en sorte que ces paysans soient non seulement en mesure de mieux nourrir leur famille, mais également de produire un surplus qui permette de nourrir les villes de leur pays. Donc là, on est devant des enjeux, notamment en Afrique subsaharienne, où la démographie, comme on le sait, est encore vraiment galopante. On est devant des enjeux extrêmement majeurs. Nous qui avons fait le terrain, René et moi, il y a quelques décennies, nous étions à une époque, dans une période d'accroissement de la productivité agricole, certes, mais avec des contraintes qui étaient nettement moindres. Je pense que nos successeurs, tous ces jeunes qui sont sur le terrain actuellement, sont confrontés à des enjeux, que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit par rapport à la démographie, à la formation des jeunes et à la production agricole, qui sont tout à fait importants.
Oui, parce que la croissance démographique est vraiment exponentielle. On peut donner l'exemple du Burkina Faso, qui double toutes les 25 ans.
Oui, c'est impressionnant. Voilà un pays qui avait 3 millions d'habitants à l'indépendance en 1960 et qui est à plus de 17 millions actuellement. Au même régime, la France, sur la même période, serait passée à 300 millions d'habitants.
Oui, c'est...
Voilà. Et ce pays va encore doubler dans les 30 ans qui viennent. Donc, c'est...
35 millions en 2050, on dit.
Oui, c'est...
Donc une population multipliée par 10 en un siècle, dans des contextes écologiques extrêmement contraignants et difficiles. Il n'y a pas de précédent historique auquel on puisse se référer pour dire on va chercher des solutions à tel endroit, à tel endroit. Ces solutions, il faut qu'on les crée sur place parce que c'est une situation totalement inédite.
Alors, vous avez porté une musique, de quoi s'agit-il ?
Voilà, alors à VSF, nous sommes également très présents au Sénégal et c'est une musique de Casamance. Ce sont les paysans Diola de Casamance qui sont des riziculteurs et qui se réunissent en début de campagne avec ce chœur.
Whoa!
Alors en Casamance, les paysans donc font aussi de l'agroécologie.
Tout à fait, nous y sommes assez présents et nous travaillons sur différentes questions qui sont la valorisation de produits tels que la noix de cajou ou le sésame, mais également sur la production laitière. Parce que c'est un pays d'élevage et on s'aperçoit qu'il y a une grosse demande pour les produits laitiers. Il y a toute une tradition de consommation des produits laitiers en Afrique et on essaie de faire en sorte que les éleveurs puissent contribuer beaucoup plus à cette contribution alimentaire pour leur propre pays, plutôt que d'importer de la poudre de lait, évidemment.
Alors, René Bilaz, non seulement vous êtes chercheur, mais vous avez recueilli aussi les paroles des paysans.
C'est exact, oui, on a eu toute une période où on s'était beaucoup intéressé à ça et j'espérais que ça pourrait prospérer et on appartient à une, enfin c'est plutôt à titre individuel qu'à titre institutionnel, à une association qui s'appelle Parole de Paysans et qui est une association forte en France depuis longtemps. Et qui est l'association des écrivains et poètes paysans français. Et nous souhaitions, là-dedans, pouvoir développer une activité qui s'intitulerait « Paroles paysannes du Sud », quoi, si vous voulez. Bon. Et on avait commencé à récolter un certain nombre de choses, des textes, des chansons, etc., des ballets. Et puis, il aurait fallu que quelqu'un s'en occupe, prenne ça en charge, pratiquement quelqu'un à plein temps, et ce n'était pas possible de le trouver. Donc c'est en stand-by, mais je ne perds pas espoir que quelqu'un se lève un jour et me dise voilà,
pour reprendre le relais.
Voilà, c'est ça.
Alors bon. Après cette révolution verte qui n'a pas donné les résultats qu'on escomptait, il y a eu toute une réflexion et même parmi les grands établissements comme la FAO, la Banque mondiale, on revient tout à coup à la raison. Et en 2011, un rapport d'Olivier de Schutter, qui a été rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, reconnaît la valeur de l'agroécologie.
Tout à fait. Alors il faut... Bon. Et là, il y a une espèce de révolution à la fois mentale, professionnelle, qui s'est faite dans les années 80. Et notre propre institution a été totalement marquée par ça, et moi-même aussi en tant qu'agronome, quoi, si vous voulez. Donc ce qui a constitué le corpus technique de la Révolution verte, hein, qui est donc le labour pour ameublir, le labour pour désherber, les engrais chimiques, hein, les variétés à haut potentiel, et puis en cas de besoin, et très souvent c'est le cas, des pesticides pour lutter contre les maladies, etc. Ça constituait le corpus, c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait l'agro en 51-54, monsieur Léman. Comme en plus de ça, ce corpus a permis de résoudre trois grandes crises mondiales de risque de famine, donc en Europe après la guerre, en Amérique latine au début des menaces castristes entre guillemets et puis en Asie après la chute la défaite des Américains au Vietnam en 75, il y avait une forte menace de famine et là ils ont mobilisé des moyens considérables qui étaient ceux de la Révolution verte et globalement il faut reconnaître à cette Révolution verte le mérite d'avoir résolu les problèmes correspondants. Les risques de famine ont disparu dans les trois cas. Ce qui est apparu progressivement et qui n'était pas évident au départ, c'est que d'une part, ce corpus technique a des effets de dégradation du milieu naturel, hein, qui se traduit par des baisses de teneur en matière organique du sol, la pollution des nappes, la multiplication des prédateurs et des maladies, etc. Et ça n'est apparu grosso modo que dans les années 80, et des effets sociaux qui ont été encore plus difficiles à mettre en évidence, qui étaient la marginalisation de toutes les paysanneries déshéritées qui n'avaient pas accès ni la possibilité de mettre en œuvre les préceptes de la Révolution verte, parce que des zones trop sèches, parce que des zones trop humides, parce que des zones trop escarpées ou des sols, etc., etc. Donc en fait, la Révolution verte ne s'applique que dans certaines conditions de sol et de climat, auquel cas elle marche bien sous cette réserve de la dégradation du milieu, et tous les autres restent des déshérités. Et ces déshérités, si j'ose dire, de la Révolution verte sont de plus en plus nombreux. Et il n'est apparu que relativement tardivement dans nos milieux la reconnaissance de ce fait-là. Je prends deux exemples parce que c'est troublant, si vous voulez, de voir à quel point cette réalité a mis longtemps à apparaître. Germaine Tillion, hein, qui était en Algérie dans les années 60, quoi, si vous voulez, hein, et qui avait créé les secrétariats sociaux, a retrouvé à ce moment-là des gens originaires des Aurès qu'elle avait connus 15 ans avant quand elle travaillait comme ethnologue. Ça a été la première ethnologue française, hein, Germaine Tillion. Elle les retrouve à Alger et elle les retrouve dans cette situation de semi-chômage de, qu'on connaît tous, quoi, si vous voulez. Bon. Et elle a théorisé ça, si on peut dire, en parlant de clochardisation. Et ce mot qui est très fort est un mot qui a finalement n'a pas été retenu parce que c'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre d'Alger, c'était etc. etc. Donc tout ce message de Germaine Tillion sur la clochardisation des paysanneries
de l'Ouest, oui,
s'est perdu. Et d'autre part, le message de Gandhi, hein, qui avait, dès les années 50, décrit cette situation dramatique des semi-chômeurs en ayant une phrase qui est restée célèbre depuis, qui disait « Pour ces 500 millions de semi-chômeurs indiens, hein, l'image du bon Dieu ne peut être qu'une tartine de pain avec du beurre. » Et c'était 500 millions d'habitants. À ce moment-là, c'est passé complètement inaperçu. C'est ressorti dans nos milieux avec la lecture du bouquin de Schumacher, hein, qui est sauf erreur dans les années 80, Small is Beautiful, si vous voulez. Donc au fond, il y avait un énorme processus social, hein, qui était celui dont on parle, la clochardisation des paysanneries déshéritées, qui n'est pas apparu tout simplement dans nos milieux intellectuels jusque dans les années 80. Et après, ça a commencé à faire partie de notre réflexion, parallèlement à la réflexion sur les effets écologiques de la Révolution verte. Mais entre le fait de reconnaître ça, c'est-à-dire le double aspect,
oui, l'aspect
dégradation
social,
des milieux et l'aspect chaud, social, oui, et que ça passe ensuite dans nos milieux professionnels pour dire « tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse une autre place à l'agroécologie, enfin, et d'autre part qu'on
oui,
soit plus proche de ces
paysans-là. » Mais c'est un changement de mentalité, c'est très long.
Et ça pose un problème que pour le moment, je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi les institutions mettent tellement de temps à s'adapter au changement. Je ne sais pas si tu es...
Oui, pour aller dans le sens de ce que dit René, il est clair que les organismes de recherche et de formation qui auraient été supposés montrer le chemin ne l'ont pas toujours fait. Certaines l'ont fait, hein, certaines étaient en avance, mais globalement, la communauté scientifique a été résistante par rapport à cette forte remise en question de la Révolution verte. À un moment donné, on a parlé de la Révolution doublement verte, c'est-à-dire qu'on voulait parer un peu aux effets négatifs sur l'environnement de la Révolution verte, mais tout en restant un peu dans la même logique. Et ça ne pouvait pas non plus complètement marcher. Donc on sent que non seulement il y a eu cette résistance de ceux qui auraient dû éclairer la route, mais toutes les générations qui avaient été formées. Moi, ça me frappe quand je vais sur le terrain de voir ce que les hommes de terrain, en Afrique subsaharienne notamment, ont été marqués par une formation qui était un peu productiviste quelque part, et en tout cas, utilisation, comme le disait René, des intrants chimiques, que ce soit les engrais ou les pesticides, et qui restent dans cette logique. Et vous voyez, il faut donc former une nouvelle génération. C'est en cours, heureusement, et ça avance. Mais il faut réellement former une nouvelle génération et, en quelque sorte, réparer les dégâts faits par cette génération de gens qui étaient dans un schéma qui n'était pas vraiment conforme.
Alors, j'en profite pour insister sur quelque chose, ma chère Madeleine, qui est apparu vraiment sur le tard, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour Philippe, parce que tant qu'on a travaillé jusqu'à la retraite, quoi, si vous voulez, dans un cadre institutionnel qui était celui des projets, des programmes, etc., etc., on n'a pas eu la possibilité d'être assez proche de la réalité de l'évolution dans certains villages, si vous voulez, africains en particulier. Et donc, il se trouve que par des activités qu'on a développées à la retraite, Philippe et moi, on a été en contact avec des petites associations de solidarité internationale française qui, dans la plus grande discrétion, sans aucune publicité, entretiennent avec certains villages une relation étroite d'appui qui est surtout sur l'éducation, un peu sur la santé et jusqu'à présent pas du tout sur le développement. Mais ce qui est remarquable, c'est que centré sur la scolarité, ils se sont intéressés à financer d'abord ce qu'on représente les frais d'écolage, quoi, si vous voulez, ce qu'on entre D'écolage, c'est pas pour le décollage. Mais c'est donc des cahiers, des blouses, des choses comme ça, etc. Donc ils ont facilité financièrement le fait que des familles...
L'éducation.
Ils ont été dans le prolongement de ça en construisant des logements pour les instituteurs. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants, donc il faut de plus en plus d'instituteurs, etc. Et donc les financements publics ont du mal à suivre. Et en financement aussi l'équipement des classes. Donc c'est des bancs, etc. Et ça, c'est remarquable et ça crée un lien que moi j'ai découvert à cette occasion. Et je tiens beaucoup à ce que ce qu'on souhaite poursuivre et que je développe dans mon affaire là, de bouquin, si vous voulez, se situe dans un cadre où le lien social est fort. Hein. Que ce ne soit pas seulement une dynamique de projet avec de l'argent qui arrive pour X années et puis après on s'en va, hein, mais où il y a une continuité dans les relations sociales.
Et il est clair que l'aspect formation est tout à fait à la base, hein, d'une reprise en main du développement. Notamment, ça va être très fort sur les aspects éventuellement techniques, agroécologiques, on en parlait, mais également sur les problèmes de démographie. Car tant que les jeunes filles, les jeunes femmes ne seront pas bien formées, bien éduquées, bien sûr, elles n'auront pas la possibilité de contrôler, par exemple, leur fécondité.
Et donc, là, il y a une donnée démographique, liés, je m'excuse de te couper, Philippe, mais une donnée démographique qui est très forte, si vous voulez. Ça n'est qu'avec la fin de l'enseignement supérieur que les jeunes filles commencent à avoir moins d'enfants. C'est-à-dire que, plus précisément, ça n'est que les jeunes filles qui ont été jusqu'à la fin, qui ne font plus 6 enfants. Voilà.
Oui, bien sûr. Alors, beaucoup d'espoir dans l'agroécologie quand même, parce que votre titre, Faire du Sahel un pays de cocagne, c'est ouvrir une perspective magnifique. Alors, nous allons écouter à nouveau la musique que vous avez apportée, toujours Casamance.
Toujours les riziculteurs Casamance, les riziculteurs Diola qui chantent dans leur chant.
Oui, alors donc, l'agroécologie, vous le dites, peut vraiment prétendre être l'alternative. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les institutions ne suivent pas toujours. Il faut de nouveaux modèles. Oui. Et parmi, bien sûr, aussi les obstacles qu'il y a, c'est l'intérêt du marché. Parce qu'il y a des lobbies qui vont empêcher cette action que vous préconisez.
J'espère que non, mais ça dépend très spécifiquement des produits, quoi, si vous voulez. Tant que les Sahéliens aimeront manger préférentiellement du sorgho, du mil, hein, et que le riz sera simplement un repas de substitution, le poids des lobbies sera mineur. Mais dès que la consommation de riz devient massive, c'est sûr que vous avez tous les importateurs de riz thaïlandais qui sont à la porte en vous disant j'ai du riz qui est 2 fois moins cher. Plus l'aspect la promotion d'alternatives aux engrais chimiques, etc. On le voit ça clairement en ce qui concerne le maraîchage. Parce que dans le maraîchage tel qu'il se pratique, il y a énormément de problèmes pathologiques. Et là, vous avez une présence des marchés qui est extraordinaire et qui est très dangereuse en termes de santé publique. D'autant plus que la majorité des produits qui sont dangereux sont dans des flacons écrit en français et la majorité des utilisateurs ne lisent pas le français. Donc, ils ne sont même pas capables de se rendre compte que
du danger.
C'est un gros problème, ça.
Sur ces questions d'alimentation, si on évoque l'Afrique, je pense qu'il faut rester très attentif aux préférences alimentaires des gens et penser qu'en zone tropicale humide d'Afrique, par exemple, le bananier plantain, le macabo, le taro, le manioc, tout ça, ont leur place. Et si on va vers le Sahel, on va retrouver des céréales traditionnelles qui sont très, très appréciées traditionnellement, et également les produits animaux, et notamment les produits laitiers, dans des préparations traditionnels comme le lait caillé et autres. Donc je crois qu'il est très important dans cette optique de produire local, de production locale et de circuit court, de maintenir une attention très importante à ces produits locaux, bien sûr, et ne pas se laisser envahir par les poudres de lait d'Europe occidentale ou par le riz d'Asie du Sud-Est.
Philippe et moi, à ce titre, sommes des chauds défenseurs du poulet bicyclette. Vous savez ce que c'est que le poulet bicyclette? Bon, c'est le contraire du poulet qui vient d'un poulailler industriel, etc., etc. Et il y a encore un goût...
Qui court. Le poulet qui court.
Mais vous savez, le consommateur ne s'y trompe pas, hein, parce que ce poulet qui vient du village, il est beaucoup mieux coté que le poulet de batterie, heureusement.
Heureusement.
Alors donc, vous allez exposer toutes ces thèses au cours d'un café actualité organisé par le Centre Documentation Tiers Monde mardi 21 février à l'espace Martin Luther King entre 12 et 14 heures, et puis vous allez aussi continuer à faire des conférences.
Monsieur Philippe, qui est un ami très proche, et il profite de mes absences pour faire des choses que je n'ai pas le temps de faire. Et donc, il s'est chargé de me promouvoir la présentation de ce bouquin dans les milieux des agronomes, donc en l'occurrence...
On va s'inscrire dans le cadre des conférences Culture Science de Montpellier Supagro. C'est un cycle qui a une conférence par mois à peu près, qui sont des conférences en général très fréquentées, non seulement par la communauté agronomique, mais par les étudiants de la mouvance agronomique. Et cette conférence aura lieu le 27 mars précisément à Supagro, donc place Viala. Et elle aura trait, elle parlera du défi agroécologique en Afrique subsaharienne, bien sûr, et ce sera l'occasion pour René de présenter son ouvrage.
Merci Philippe.
Non, on en reparlera, bien sûr. Alors, AVSF a en ce moment une campagne. Les éleveurs du Sud ont besoin de votre soutien. Sauvons l'élevage paysan.
Oui, on est très, très engagé auprès de l'agriculture paysanne, comme on l'a montré il y a deux ans, lors de l'année internationale de l'agriculture paysanne, avec notamment la quinzaine des tiers-mondes sur ce sujet. Nous sommes réellement auprès de ces paysans pour leur permettre de mieux vivre de leur activité dans un environnement qui ne se dégrade pas, et également pour permettre à leur pays d'avoir une sécurité alimentaire accrue. Donc on est complètement dans ce débat, et ça passe évidemment par le commerce équitable, par une bonne valorisation de leurs propres produits.
Alors vous pouvez donner l'endroit où on peut vous joindre ?
Le plus simple, c'est vraiment le site d'AVSF, hein, avsf.org, où on trouve toutes les informations, y compris sur l'ONG nationale, mais aussi sur les délégations régionales.
Eh bien, merci. Là, je termine par le calendrier des associations de la Maison des Tiers-Mondes et de leurs partenaires. Et dès aujourd'hui, lundi 13 février, à 20h, au cinéma Utopia, 5 rue du Docteur Peset à Montpellier. On présente le film Un paese di Calabria de Chou Aiello et Catherine Catella. Il est question de l'accueil de 200 Kurdes dans le village de Riace. Et le débat sera avec les réalisateurs et la CIMAD, Réseau Éducation Sans Frontières 34, Amnesty International et SOS Méditerranée. Et puis le dimanche 19 février, c'est la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale qui vous invite à son super loto dès 15h à la salle Guillaume de Nogaret. Alors, il y aura évidemment de nombreux lots, téléviseurs, électroménagers, places de spectacle, bons d'achat, jambon, panier garni, etc. Il y aura une kine spéciale enfant. Et un carton coûte 3 euros, 4 cartons 10 euros, etc. Vous pourrez vous les procurer dès 14h30. L'entrée est libre, il y aura sur place une buvette. Et donc, venez nombreux avec vos enfants, petits-enfants, pour ce loto de dimanche 19 février à 15h, salle Guillaume de Nogaret. Ce même dimanche est tout à côté. À 18h30, à la Maison des Chœurs, place Albert Ier à Montpellier. C'est un spectacle musical, Val de Légende. Ce sont les légendes de la vallée de l'Hérault. Avec le grand corps d'Hérault, les comédiens du groupe Les Igomars. C'est une création de Jean Pau, mise en scène de Brigitte Beaumont. Et c'est présenté par un collectif d'associations montpelliéraines engagées en faveur des droits humains, où l'on retrouve Amnesty International, la CAT, le Panic Familial, Oxfam France. C'est entrée libre participation. Et puis je rappelle, bien sûr, le Café Actualité, où nous aurons le plaisir d'entendre René Bilaz, mardi 21 février, de 12 à 14 heures, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Faire du Sahel un pays de cocagne, le défi agroécologique. À bientôt, chers auditeurs. Merci à vous.
À bientôt.